Le programme qui va suivre vous est présenté par le Centre missionnaire Philadelphie sur Avenue de la Science, Kinshasa Gombe. Si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs.
Amen. Alors j'ai un bouquet de passages à lire avec vous. Et ces passages vont m'aider à introduire cet enseignement. Je pensais répondre directement déjà l'enseignement sur les béatitudes. On s'était arrêté quelque part. Et puis je pense que j'ai quitté déjà mon épouse et ma famille là où elles étaient. Et j'étais en train d'aller à un autre endroit où j'étais attendu. Et quand j'étais entre cieux et terre, sûrement j'étais plus proche de Dieu. J'ai dit littéralement, géographiquement, à plusieurs pieds, ça s'est imposé dans mon cœur. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, parle-en. Fais au moins deux dimanches. Genèse chapitre 37, versets 18 à 22, et puis 25 à 29. Genèse 37, 18 à 22, et puis 25 à 29. Ils virent Joseph de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les. Jetons-les dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandons point de sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Jusque-là, tout est positif. Mais soulignez bien la dernière phrase qui aura toute son importance tout à l'heure. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Soulignez bien cela. Pour les faire retourner vers son père. Verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage, les marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint de la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères, dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Tu n'iras nulle part, Ruben. Dieu contrôle tout. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il y a des interprétations pour lesquelles Dieu n'est nullement d'accord. Je peux entendre Dieu dire au ciel, Pierre, je ne suis pas d'accord avec toi. Et du reste, n'utilise même pas mon nom. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celle des hommes. Lisons 1 Samuel chapitre 1er, versets 6 à 7, 9 à 18, et puis verset 20. 1 Samuel 1, 6 à 7. La rivale d'Anne lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait. Elle ne mangeait point. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme. elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle parlait dans son cœur. Elle ne faisait qu'y remuer les lèvres. On n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. Elle ne parle pas de douleur, elle parle d'une douleur qui allait au-delà du supportable. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il y reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, mangea, et son visage ne fut plus le même. Verset 20, j'aime ça. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Nous lisons aussi Matthieu chapitre 26, verset 14, jusqu'au verset 16. Matthieu 26, verset 14, verset 16. Alors, l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous les livrerai ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Nous terminons avec Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, partant du verset 4 au verset 8. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non pas qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Comme vous l'avez vu, dans le bout de papier que nous avons reçu, Dieu m'a mis à cœur ce thème à aborder peut-être en deux dimanches. Des personnes à rencontrer et à ne pas rencontrer sur le chemin ou sur la route du destin. Le but de ce message est triple. Le premier but de ce message, c'est nous préparer à vivre certaines situations et à savoir bien les interpréter. Nous préparer à bien vivre certaines situations, à savoir les interpréter. Le deuxième but de ce message, c'est nous ouvrir les yeux sur les méthodes de Dieu. Et quand je dis nous ouvrir les yeux sur les méthodes de Dieu, à la fois pour ceux qui ne sont pas encore passés par ces situations, mais certains peut-être qui sont en train d'y passer. Le troisième but, c'est de nous vacciner contre les mauvaises réactions qui peuvent nous dévier du plan et du projet de Dieu. Combien de fois nous avons des attitudes et des réactions sincères, mais qui sincèrement font avorter les plans et les projets de Dieu. Au travers de l'étude des quelques séquences de vie de ces quatre personnes au total, nous allons parler de ces personnes, hommes et femmes, qu'il ne faut jamais rencontrer, mais d'autres qu'il faut rencontrer. Et comme fondement nécessaire à la bonne compréhension de ce message, j'ai voulu placer ces six bases. Et la première base que j'aimerais placer, j'aimerais nous dire que la vie est faite de deux sortes de choses. Premièrement, celle que nous contrôlons, celle que nous maîtrisons. Et deuxièmement, celle que nous ne contrôlons pas et ne maîtrisons pas. Il y a des choses que nous contrôlons, nous maîtrisons. Nous pouvons même les faire arriver. Mais il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Je ne peux pas contrôler la haine vis-à-vis des gens pour moi. Je ne peux pas empêcher les gens d'avoir des sentiments. Je ne peux pas conditionner les gens à agir d'une certaine manière. Dans Ruth au chapitre 2, verset 3, la Bible nous montre combien la vie de cette jeune fille change simplement parce que la providence l'amène à un endroit qui va changer sa vie. Elle n'a rien fait. Écoutez ce que la Bible dit. Ruth alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par bonheur que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Il semble à l'époque qu'il y avait plus de 10 000 champs. Et cette jeune fille étrangère, elle ne connaît pas. Et comme un peu guidée par une boussole, elle se retrouve à cet endroit sans le souhaiter, sans le savoir. Et c'était le bon endroit. Dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 18 à 19, ainsi que 21 à 22, la Bible nous parle de l'instant qui va changer le destin du jeune berger David. On parle de lui à un endroit où lui-même n'y est pas physiquement. Il ne contrôle pas cela. Il est à un endroit et il ne sait pas ce qui se passe. Mais il ne sait pas qu'un homme est en train de parler de sa promotion. Alors qu'un problème se pose et qu'on est en train de placer le portrait robot de celui qui doit apporter une telle solution, cet homme s'élève et dit, j'ai vu un fils d'Isaïe Bethlémite qui sait jouer. C'est un homme vaillant, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. Et j'aime ce que la Bible dit au verset 19, et Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Et j'aime la suite. Et dès que David arriva chez Saül, Saül est pris en affection et il devint son porteur d'armes. J'aimerais dire, sur le chemin de la vie, tu n'es pas lié par j'ai l'honneur. Il y a des promotions qui ne sont pas attachées à j'ai l'honneur. Dieu peut les provoquer directement et sans que nous puissions les contrôler. Deuxième base et deuxième fondement important, c'est que la vie est faite des rencontres positives, mais aussi négatives. Mais il y a même aussi des rencontres neutres. Des rencontres qui ne vous apportent rien. Ça ne vous enrichit pas, ça ne vous enlève pas non plus quelque chose. Neutres, elles sont. Mais il y a des rencontres positives qui vous propulsent vers votre destin, qui transforment un petit en grand, qui amènent quelqu'un qui est en bas, qui l'amène vers les hauts, qui vous enrichit. Mais il y a aussi des rencontres négatives qui vous amènent vers les bas, qui vous dévient de votre trajectoire, qui vous fait sortir du plan de Dieu. Il a fallu que Samson rencontre Delilah pour que son plan de carrière dévie. Il a fallu que ce jeune homme qui est en train de monter sur le plan ministériel fasse une mauvaise rencontre à un vieux prophète. Et qu'il ait le malheur de lui accorder son oreille. Et ce ministère qui commençait à décoller, atterrit avec fracas et s'arrête subitement. Rencontre neutre, mais rencontre aussi positive. Mais aussi rencontres négatives. Certaines rencontres, les négatives, nous ne les aimons pas. Nous ne les souhaitons pas. Et nous prions même pour qu'elles n'arrivent pas. Mais quelquefois, elles arrivent malgré ça. Parce que Dieu le veut. J'ai lisé ce passage durant ces deux semaines et je suis resté longtemps dedans. Ça m'a étonné. J'ai dit, pourquoi Dieu agit-il ainsi? La Bible nous parle dans le livre des Juges. Comment Dieu, après avoir permis qu'Israël entre dans la terre promise, bizarre, il est dit que Dieu laissa 5 nations pour faire la guerre à son peuple. Il dit pour leur apprendre la guerre. Seigneur, est-ce que j'ai besoin de ça? Pour ceux qui n'avaient pas connu la guerre, Dieu dit, ils vont vous servir des sparring partners. Ils vous feront faire des exercices spirituels. Il y a des rencontres qu'on n'aime pas. Mais il y a d'autres qu'on aime. On souhaite qu'elles arrivent. Mais des fois, Dieu ne laisse pas qu'elles toujours arrivent. 1 Roi, chapitre 11, verset 28, nous parle de la rencontre de Jéroboam avec Salomon, qui sera le premier pas de la transformation de ce jeune homme anonyme pour devenir quelqu'un de précieux. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens des corvées de la maison. Seigneur, en tant que leader, aide-moi à découvrir des Jéroboam. Que des gens qui ont des aptitudes et des qualités. Mais nous, les leaders, n'avons pas les yeux qu'il faut pour voir, pour saisir. Ma vie à moi a été changée par une rencontre. J'étais à la jeunesse là-bas, on a un jeune homme parmi tant d'autres. Certes, j'avais la promesse de Dieu. Et puis voilà un samedi, alors que le prédicateur qui était invité n'est pas venu. Notre responsable de l'époque, pasteur Veilly, a demandé, y a-t-il des gens qui ont des méditation de la journée à partager. J'ai hésité. Je n'osais pas beaucoup parler en public. Une première personne a partagé, une deuxième, et puis j'ai partagé ma méditation. Quand j'ai fini, j'ai voulu m'asseoir. Il m'a dit, rappelle-moi mon nom. Rappelle-moi ton nom. J'ai dit, le frère Dallo. Il avait bien retenu, mais j'ai été un peu dérangé à la fin. Quand il m'a vu là, à la fin de la réunion, il a dit que le frère Dola ne parte pas. Alors, je lui ai dit, toutes les lettres sont là, mais un peu renversées. Et il m'a vu, il a dit, jeune homme, tu as quelque chose de la part de Dieu. J'ai un groupe avec lequel je prie chaque mardi, j'aimerais que tu me rejoignes. Je sens que tu dois aller quelque part. Et ça a été le point de départ. Donne-nous des gens qui savent dans la masse nous déceler, qui savent nous capter. Quand je parle ainsi, je vois quelqu'un qui n'est pas très loin de moi, fonctionnaire anonyme, faisant son travail normalement, et qui peut aller rendre service à quelque endroit. Un homme l'a vu et lui a accordé la possibilité d'assumer des grandes responsabilités que plusieurs de son âge n'ont jamais vues. Dieu est le Dieu qui sait permettre des rencontres. Des rencontres qui vous propulsent. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 19, nous parle de deux frères dont la vie était ordinaire, mais a jamais changé par la rencontre d'avec un homme. Que dis-je? Par Dieu fait homme. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetait le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Une rencontre qui change toute une vie. Une rencontre qui prend ces pêcheurs anonymes, qui les amène à devenir des hommes dont Apocalypse dit. Vous savez, j'aime quand Apocalypse dit, quand nous rentrerons dans la Jérusalem céleste, il y aura 12 colonnes. Et sur chacune des colonnes sera écrit le nom des 12 apôtres de l'agneau, des anonymes pécheurs, mais il va mettre leur nom à un endroit qui restera pour l'éternité. Seigneur, sois celui qui provoque des rencontres positives sur mon chemin. Actes des apôtres, chapitre 16, versets 1 à 3, nous parle de l'instant où la vie d'un jeune homme change. Timothée, un jeune homme qui travaillait à Lystre et Derbe. Et la Bible dit simplement, Paul arriva à Derbe, puis à Lystre. Et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et il est circoncis. C'est le point de départ qui transforme un jeune homme anonyme en celui qui va faire un travail de poids à Éphèse, qui va changer toute une vie. Donnez-nous des rencontres positives. Troisième base que j'aimerais placer fondement, c'est qu'avec notre Dieu, du négatif apparent peut sortir du positif. Du négatif vu, interprété par tout le monde, Dieu peut faire sortir du positif. J'aime quand Samson présente un peu comme ses proverbes, il dit de ce qui mange, sortira ce qui se mange. J'aimerais dire à quelqu'un, du lion qui veut vous bouffer, sortira du miel succulent. J'aimerais encore dire comme un prophète, dans le lion qui vous menace, se cache le miel. Et entre la transformation du lion en miel, il faut du temps. Et il ne faut jamais perdre la foi. Dieu m'a dit, quand je préparais ce message, va dire à quelqu'un de ne perdre jamais la foi. Et mon juste vivra par la foi. Et Dieu dit, s'il s'écarte, mon cœur n'est pas avec lui. Ne perds jamais, au grand jamais. La foi. J'ai été étonné, j'ai médité cette parole. Elle m'a boosté et Dieu m'a dit de la prononcer pour quelqu'un. Alors que les amis de Daniel étaient sur le point d'être jetés dans le feu, ils connaissaient leur Dieu. Ils ont regardé ces rois dans les yeux et dit, notre Dieu peut. Mais ils vont plus loin. Va nous délivrer. Donne-nous des gens qui croient en Dieu. Donne-nous des gens qui espèrent en Dieu. Il voulait dire, tu nous mettras dedans, mais ça ne va pas finir. Il peut. Donne-nous des gens qui connaissent Dieu. Et ma Bible dit encore, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Fermeté. Connaître Dieu. Il y a plusieurs qui viennent à l'église, ils connaissent l'église, mais ils ne connaissent pas les dieux de l'église. Plusieurs connaissent la maison de Dieu, mais ils ne connaissent pas les dieux de la maison. Je n'aimerais pas venir simplement à l'église. J'aimerais connaître le Dieu de l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu ici. Un Dieu que certains rencontrent. J'aimerais vous dire, vous aurez selon votre cœur, souvenant spectateur, vous serez spectateur. Mais si vous avez foi, quelque chose se passe. J'aime au plus fort de son combat. David a été le prophète de sa propre vie. Il a dit, je ne mourrai point. Je vivrai. Je raconterai les merveilles
de l'Éternel. J'aime l'instant où Job se retrouve dos contre les murs. Il s'élève lui-même comme un prophète. Tu as trop besoin de prophètes extérieurs. Qu'est-ce que Dieu a dit? Apprends à prophétiser toi-même. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Les derniers, mes yeux, les verront. Et pas ceux d'un autre. Trop de gens à l'église ont besoin de béquilles. Donnez-nous des gens qui savent que du négatif peut sortir du positif. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, quelqu'un qui l'a expérimenté l'a dit. Il l'a dit non pas au départ de l'action, mais l'a dit à la fin. J'aimerais vous dire, ça c'est la spécialité de notre Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Laisse-les méditer. Laisse-les faire des projets. Mais Dieu l'a changé. Dieu l'a changé. Laisse les hommes faire. Laisse-les méditer. Laisse-les planifier. Ton Dieu va les... Il va les changer. La version de la colombe dit, vous avez formé les projets de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Vous savez, quelquefois, la matière de première de Dieu pour faire le bien, c'est le mal. Il dit, donnez-moi le mal comme matière première. Je vais l'amener à Fungurume, mais je vais le transformer. J'aimerais dire à quelqu'un, les jours qui viennent, tu vas verser des larmes et des larmes de bonheur. Des larmes de bonheur. J'aimerais dire à quelqu'un, les jours qui viennent, tu iras dire merci à celui qui t'a donné des coups. Et quand je parle comme ça, moi-même, j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, quand chaque dimanche, je suis à Philadelphie, je dis, Seigneur, merci pour... Quelquefois, il faut le temps pour comprendre. Vous savez, Dieu peut écrire droit avec des lignes courbes. Dieu peut t'amener au nord, en allant au sud. Aide-moi à dire à ton voisin, comme pasteur adjoint, garde le calme. Change de voisin, lui n'a pas de foi, dis-lui pas de panique. Dieu est au contrôle. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il est le commandant en chef de ta vie. Il a fallu que Jephthé vive les rejets de ses frères pour que celui à qui on empêchait d'être le chef d'une famille revienne pour devenir le chef d'une nation. Le Dieu de la Bible, il est terrible. Jephthé, est-ce qu'on te chasse? Vas-y! Il pense qu'il t'empêche la famille. Dieu te redonnera là. Du négatif peut sortir du positif. C'est vrai, on ne peut pas forcément s'appuyer sur ça. Mais je suivais un jour un musicien mondain. Il a même célébré Dieu. On lui a dit, quel est l'homme à qui tu dois le plus dans ta vie? Il a cité les noms de son chef d'orchestre, qui est même déjà décédé, parmi les vieux loups dans la musique congolaise. Il dit, on avait des problèmes, je ne savais pas pourquoi. Il dit, il m'a chassé avec des méthodes. Malicieuses. On sent que tout était préparé pour faire suffisamment mal. Et nous devons faire un grand voyage aux États-Unis. Et il a invité tous les musiciens comme une proclamation. Il avait le passeport, il commençait à appeler tel, prends, tu rentres. Tel, il dit, on était à 22. Il a appelé 21, puis il m'a regardé dit, oh, Kola Pambolay. Il dit, ils sont tous partis. Il dit, j'avais déjà dit au revoir, j'avais des listes des membres des familles, tu vas m'acheter ça, tu vas m'acheter ça. Je suis resté là, il dit, je faisais plusieurs choses, je les maudissais, je maudissais Dieu. Mais il dit, en rentrant, ce qui m'a donné de décoller, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut partir du négatif. Sortir du positif. Mais pour moi, avec toi, tu es trop pressé. J'ai relaté cette histoire un jour. Cet homme m'a parlé de cela. Il était en train d'attendre son transport un jour sur Place Royale et les transports étaient difficiles. À l'époque, c'était le moyen de transport qu'on utilisait. Il y en a plus, on appelait ça Kimalouma. Je ne sais pas en français comment dire. Autre temps, autre mœurs. Bon, d'autres ne comprennent pas. Mais Kimalouma, demandez aux anciens qu'on pasteur verront. Il va vous expliquer. Il y avait la place devant pour les chauffeurs et deux places derrière. Et puis derrière, on plaçait deux bancs. Et puis ce monsieur, il dit, vers 17h, après plus de 2 heures sur Place Royale, je vois un Kimalouma qui s'arrête, deux personnes descendent et je me précipite parce qu'il était dans l'armée. Non, lui n'était pas dans l'armée. C'est qu'il a connu dans l'armée très plus tard. Il est monté. Il a dit, les combles, c'est qu'ils arrivent là où il y a Aurore, le moineau. Trois policiers s'arrêtent. C'était même pas l'arrêt. Ils arrêtent, ils disent, nous on est ici depuis longtemps. Trois doivent descendre. Et nous, on doit monter. Il dit, j'étais enfant de Dieu, je faisais une prière en langue au fond de moi. En tout cas, Seigneur, si tu m'aimes, tout le monde sauf moi. Il dit, il n'avait même pas fini de faire, de dire amen à sa prière. Les premiers ont été pointés. Yo, quitta. Il dit, je n'étais pas déçu, j'étais fâché contre Dieu. Il dit, quand je suis descendu, il m'a dit en français, il dit, j'ai dit à Dieu, cette mâchoire fera la prière buissonnière. C'est-à-dire, je ne prierai plus. Seigneur, avec tout ce que tu as fait pour que ces mâchoires s'ouvrent, il faudra que tu poses un acte rédempteur. Il dit, il est resté une heure, rien du tout. Deux heures, rien du tout. Il s'est dit, je dois marcher à pied, l'habiter dans son. Il dit, j'ai commencé à marcher en maudissant Dieu. À quoi ça sert de te servir? Et puis il arrive vers quittant mon magasin, il voit un gros attroupement. Et puis il entend comme des bruits d'ambulance. Il demande quoi? On dit, non, non. Un véhicule est tombé il y a une heure et demie, on ne sait plus très bien. Et apparemment, il n'y a pas de survivants. Et puis, il demande quelle marque, on nous dit, qui m'a l'eau, m'a l'eau. Et puis il voit, on commence à faire remonter les morts. Il voit quoi? Les trois policiers. Il me dit, là où j'étais, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, merci Ndenge Bakiti Sakingai. Merci Ndenge Bakiti Sakingai. Merci pour le pourquoi on m'a débarqué. J'aimerais dire que les problèmes avec toi, tu es trop intelligent. J'aimerais te dire comme les Quinois, les dieux de la Bible, les aboulistes. Maïe le Pélé. Les dieux de la Bible, il est intelligent. Vous savez, je le dis souvent ici. Quand j'étais jeune dans la foi, je bénissais Dieu pour sa puissance. Je le bénissais El Shaddai. Pour son omnipotence. Omniprésence. Mais quand j'ai vieilli un peu, 50 ans, ça me fait changer. J'ai commencé à le bénir pour son intelligence. J'ai commencé à voir, waouh, il a fallu ça pour que j'aie ça. Il a fallu ces contretemps pour que j'arrive là. J'ai appris à lui dire merci. Aide-moi à dire à ton voisin, Lingala Nzambaza, Mayele. Change de voisin, dis-lui, Mayele, Bini. C'est la spécialité du Dieu de la Bible. Hyper intelligent. Très intelligent. Très intelligent. C'est ça le Dieu de la Bible. Dans Psaume 119, verset 71, un homme qui a expérimenté ça, il arrive à dire quelque chose d'étrange. Il dit, il m'est bon d'avoir été humilié. Waouh! Y a-t-il quelque chose de bon dans l'humiliation? Le mot bon l'avait dit profitable, enrichissant. Et à la fin, il a vu l'humiliation a été enrichissante. L'humiliation a apporté un plus, mais ça, il ne le voyait pas au départ, c'est sûr, il l'a vu à la fin. Est-ce que je peux poser le quatrième fondement? Le quatrième fondement, c'est que le plus important par rapport aux conséquences futures, n'est pas toujours ce qui nous arrive, ce qu'on nous fait, mais comment nous réagissons. Le plus important n'est pas toujours ce qui nous arrive, ce qu'on nous fait, mais comment nous réagissons. Genèse 39, verset 9, Joseph continue à craindre Dieu, malgré qu'apparemment ce Dieu l'a abandonné. Il a laissé que ses frères les prennent, il a laissé que ses frères les vendent, mais il arrive en Égypte, une femme est en train de vouloir l'amorcer. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Moi, je serai à la place de Joseph, je dirais, c'est Dieu m'a abandonné. Je vais faire n'importe quoi. Faites attention à comment vous réagissez. Devant l'épreuve, devant les situations les plus difficiles. Dans Job chapitre 1, verset 22 et Job 2, verset 10. En tout cela, Job ne pécha point. Il ne comprend pas tout ce qui se passe. Tout lui est pris, le vide est en train de se faire. Enfant, bien part, et même sa santé. Mais il réagit de la bonne manière. Seigneur, aide-moi à réagir. Dans Romains chapitre 4, verset 18, alors que tout semble s'écrouler, la Bible parlant d'Abraham dit, il espéra contre toute espérance. Il fit le choix d'espérer. Et une autre version dit, il décida d'espérer alors que tout lui interdisait d'espérer. Tout lui disait, ne le fais pas, mais il fit le choix. Seigneur, donne-moi des bonnes réactions. Cinquième base et cinquième fondement d'une grande importance, c'est que les bonnes réactions durant la saison des mauvaises situations dépendent de quatre choses. Les bonnes réactions durant la saison des mauvaises situations dépendent de quatre choses. Premièrement, de la qualité de notre relation avec Dieu. La qualité de votre relation avec Dieu va déterminer vos réactions. Ésaïe chapitre 53, verset 7, la Bible parlant de Jésus-Christ, il est resté comme une brebis muette devant ce qu'il attendait. Pas de cris, pas de murmures, pas de pleurs. Alors que ce qu'il est en train de subir, c'est du négatif. Que dire d'Étienne? Acte 7, verset 60. En train d'être lapidé sans anesthésie. Ne leur impute pas ses péchés. Quelle réaction! Une réaction incompréhensible. La qualité de notre relation avec Dieu. Deuxièmement, les bonnes réactions dépendent de notre maturité. Que des chrétiens bébés. Quand je parle de la maturité, j'aimerais parler des fruits de notre croissance, qui est un mélange de l'intériorisation de la parole de Dieu et de l'expérience accumulée sur le chemin. L'épreuve révèle qui nous sommes réellement. Nous pensons quelquefois que certaines personnes sont stables, fortes, assises dans la foi, jusqu'à ce que l'épreuve arrive. Mon pasteur donnait cette merveilleuse illustration. Il dit, si l'on place un verre plein d'eau, si on donne un coup, ce qui sortira, qui va tomber, c'est ce qui était dedans. Ce qui sort au moment de l'épreuve, c'est ce qui était dedans. Caché quelquefois, que les gens ne voyaient pas, bien présent. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 16, verset 10 au verset 12. La Bible nous parle de la réaction étrange de David, alors que Shimei est en train de lui jeter du sable. De la poussière est en train de le maudire. Et son voisin dit, laisse que je puisse les frapper. Il dit, laisse-les. Qui sait si ce n'est pas l'Éternel qui permet cela? Moi, j'aurais réagi autrement. Quelle réaction! Nous pensons quelquefois avoir affaire à des gens spirituels jusqu'à ce qu'on apprenne qu'on a injurié. J'ai suivi cette scène et ça m'a fait rigoler. On disait à l'époque, le grand maître Luomo Makiel s'était converti. Et le coup qu'on sent pour le recevoir, c'est l'une des dernières interviews. Et vers la fin, Koukoussan pour l'un des maîtres dans l'interview. Il dit, grand maître, tu veux qu'à la fois qu'au bon goût, tellement on a appris que tu es converti. Sans qu'il fisse, le grand maître dit, dis à ceux qui disent comme ça, j'ai maudit leur maman. Et nous concourons pas, mais grand maître, au loup, au bon goût, le mot, ma grand maître, tu as dit, tu t'es converti. J'avais oublié qu'il me pardonne. L'épreuve révèle qui nous sommes réellement. Qui es-tu? Des fois, nous te plaçons là, alors que tu n'es qu'un bébé. Troisième chose qui nous aide à bien réagir dans l'épreuve, c'est le niveau ou le degré de notre révélation. Les degrés de notre révélation de Dieu et de son plan pour nous influencera nos réactions. Job a dit, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Quelle réaction à un moment le plus fort? En tout cela, Job ne pécha point. Mais quatrièmement, et ça aussi c'est important, c'est la qualité de notre entourage. Il arrive des fois dans des moments difficiles, dans les saisons de difficultés. Nous-mêmes, nous voulons bien réagir. Mais nous avons l'une de ces femmes. Nous avons l'un de ses maris. Nous avons l'un de ses pasteurs comme conseiller. Nous avons l'un de ses assistants, de ses adjoints pasteurs. Pasteur, comme on a réagi comme ça, toi, combien de choses nous ne voulons pas faire? Mais notre entourage, Seigneur, aide-moi à être d'une bénédiction pour mon entourage. Job chapitre 2, verset 9 à 10. Alors que Job est en train de vivre une mauvaise saison, il a une conseillère qu'il pensait être forte. C'était Maman Diaconesse. Quelle proposition! Pourquoi restes-tu intègre? Maudit Dieu, il meurt. Qu'est-ce que vous avez comme entourage? Deux Rois, chapitre 5, verset 11 à 13. J'aime. Naaman veut rater la bénédiction simplement parce que la saison est difficile. On lui propose quelque chose qui sort de son plan. L'homme de Dieu ne le reçoit même pas. Il lui envoie son adjoint. Et puis il lui dit, j'ai pas besoin. Va simplement te jeter dans les eaux. Il se met à murmurer, y avait-il pas les eaux du parpaing? Il veut s'en aller. Dieu merci, il est bien entouré. Ceux qui étaient tout autour de lui lui ont dit,
Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose de difficile? Donne-nous un entourage qui parle. Mais donne-nous aussi des gens qui sont devant, qui écoutent. Et Naaman écoute. Et il gère bien cette saison de difficultés. Sixième base et sixième fondement, c'est que la révélation, le discernement et l'intelligence spirituelle sont d'une importance capitale sur le chemin de la vie. Je répète, la révélation, le discernement et l'intelligence spirituelle sont d'une grande importance sur le chemin de la vie pour bien agir et surtout bien réagir. Quand je parle de la révélation, j'aimerais parler de la connaissance surnaturelle par et à cause de l'Esprit de Dieu. Tout ne se connaît pas par l'intelligence. Tout ne se connaît pas par expérience. Dans Galates chapitre 1, verset 11 à 12, l'apôtre Paul dit, je vous fais connaître, frère, l'évangile qui a été annoncé par moi. Il dit, il n'est point de l'homme. Il dit, je ne l'ai pas appris d'un homme, mais c'est par révélation. J'aimerais dire, Dieu révèle encore. Luc chapitre 19, verset 40 à 43, les brigands sur la croix ont eu la révélation que cet homme nu en train d'être pendu était le fils de Dieu, malgré qu'il n'en avait pas l'air. Isaïe n'a-t-il pas dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. J'aimerais dire à quelqu'un, la révélation fera toute la différence. La révélation te fera voir la grandeur cachée dans la petitesse de cet homme aujourd'hui. La révélation te fera voir le roi caché dans les bergers. Et tu sais, t'attacher à un roi, mais qui a l'air d'être un berger. Qu'il y a des jeunes filles qui ratent des rois parce que le roi a l'air d'être un berger. La révélation. La révélation. Mais non seulement la révélation, mais aussi l'intelligence spirituelle. Capacité de voir et de comprendre par l'esprit. 1 Samuel chapitre 3, verset 8, nous parle de l'intelligence spirituelle d'Élie le sacrificateur. Élie comprit que c'est l'Éternel qui a appelé l'enfant. Intelligence spirituelle. Ce n'est pas le vécu, ce n'est pas l'expérience. Intelligence, Seigneur, donne-moi l'intelligence spirituelle. Mais au-delà de cela, nous avons besoin du discernement. Le discernement fait que sur base de peu d'éléments, tu arrives à la bonne conclusion. De très peu d'indices. Il y a des gens qui ont besoin de trop d'indices, beaucoup trop d'indices pour comprendre. Mais celui qui a le discernement a besoin de très peu d'indices. Et j'aime ce texte de la Bible qui nous parle de l'expérience de David. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 19, David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit. Dites avec moi, il comprit. Il comprit que l'enfant était mort. On ne lui a pas dit des petits indices, tout petits. Tout petit, Seigneur, aide-moi. Tout petit. Que tout petit que je puisse comprendre, cet homme ne doit pas rester avec moi. Que je puisse... Souvent, nous traînons à prendre des bonnes décisions. Alors que des symptômes se montrent déjà à nous. Donne-moi la révélation. Donne-moi l'intelligence spirituelle. Mais donne-moi surtout le discernement. Et ce matin, avec la grâce de Dieu, je parlerai d'une ou deux personnes qu'on doit rencontrer. Et parmi les personnes que nous devons rencontrer ce matin, tu m'as mis à cœur de parler principalement des Ruben. Les Ruben, on doit les rencontrer. On ne doit pas plutôt les rencontrer. Dimanche prochain, je parlerai de ceux qu'il faut rencontrer. Les Ruben, il faut les éviter. Genèse 37, verset 18 à 22, nous montre les cœurs et les intentions des Ruben. Un moment crucial du destin du jeune Joseph. Le Dieu qui est intelligent est en train de le faire quitter l'Égypte, plutôt Canaan, pour l'amener vers la terre de son destin. Vers la terre de l'accomplissement de ses deux rêves. Et tout ce qui se passe n'a pas l'air d'être le chemin qui l'amène vers là. Mais le Dieu qui connaît tout est en train de le faire. J'aimerais dire, tout ce que Dieu fait, il nous annonce quelquefois d'avance, mais quelquefois il ne nous annonce pas. Combien ça serait merveilleux si Dieu disait tout d'avance. Fils Joseph, demain matin, quand tu iras chercher tes frères, ils vont t'attraper. Ils vont t'enlever ta belle robe, ils te jetteront dans une citerne. Et puis ils vont te vendre, mais sois calme. Ça sera le chemin qui va t'amener vers la grandeur en Égypte. Ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Même quand on te jette dans les citernes, tu diras, Naïebi. Mais la plupart des fois, Dieu ne dit rien. Nous avons l'impression que cette citerne, c'est la fin. Et pourtant, la citerne n'est qu'un tremplin. Je dis à quelqu'un, ne sois pas trop prompt à te plaindre. Mais je dis à quelqu'un, ce matin, je ne dis pas des Ruben sur le chemin de ma vie. Les Ruben ont trois caractéristiques apparemment bonnes. La première, ils sont pleins de compassion. La deuxième caractéristique des Ruben, ils ont le sens du bien. La troisième caractéristique des Ruben, ils n'aiment pas qu'on nous fasse du mal. Ils sont hyper protecteurs. Voilà les Ruben. Plein de compassion. Ils veulent faire du bien. Ils veulent nous protéger. Et les Ruben sont souvent nos parents, nos amis, nos pasteurs, nos mentors, nos voisins. Mais je me redis que les Ruben sont dangereux. Ils sont dangereux pourquoi? Parce qu'ils manquent des révélations. Ce sont des hommes bons, mais manquant des révélations. Ce sont des hommes fonctionnant à un niveau bas. Ce sont des hommes et des femmes qui ne s'élèvent pas. Écoutez ce que le verset 22 dit des intentions de Ruben. Ruben leur dit, ne versez pas son sang, jetez-le dans une des citernes. La Bible dit, il avait intention de les délivrer pour les rendre à son père. Les Ruben, il ne faut pas les rencontrer pour 5 raisons. La première raison pour laquelle il ne faut pas rencontrer les Ruben sont dangereux sans les savoir. Très dangereux, dangerissime. Deuxième chose, les Ruben nous évitent un mal nécessaire. Un mal dont notre destin a besoin. Un mal qui nous sera profitable. Il a été prouvé en zoologie que quand un poussin en train de casser un œuf ne l'aide pas. Si tu l'aides, il ne va jamais vivre. Il semble qu'en faisant l'effort de casser l'œuf, ils travaillent les muscles de leur tête qui s'affermit. Et toi, tu es l'angoro. Que je puisse l'aider. Il y a des fois des gens qui nous évitent le mal, mais pourtant il y a des mots nécessaires. J'aimerais faire une prière. Seigneur, si quelqu'un est en train de passer par un mal et qu'il doit passer par là, même s'il est fatigué, je te supplie, garde ce mal. Et si possible, même ajoute. S'il y a des gens qui veulent lui éviter, je te supplie, chasse-les au nom de Jésus. Seigneur, exauce ma prière et n'exauce pas sa prière à lui. De troisième chose pour laquelle il est dangereux de rencontrer les Ruben veulent nous garder là où Dieu ne nous veut plus. La Bible dit quoi? Il voulait les délivrer pour les faire retourner vers son Père. Dieu ne le voulait plus là-bas. Ton temps est fini ici. L'Égypte t'attend. L'élévation t'attend. Mais Ruben est un myope spirituel. Ruben n'a pas la révélation. Il pense bien faire. J'aimerais dire, si les Ruben réussissent, vous avez l'impression qu'ils vous ont aidé. Le lendemain, quand on vous donne la nourriture, vous dites, il y a Ruben. Sois vraiment l'ipananga, sauvé. Il ne t'a pas sauvé. Il t'a sauvé d'un petit mal, mais il t'a fait rater un grand destin. Je prie que tes Ruben ne réussissent jamais. J'éloigne les Ruben de ta vie. C'est qu'ils veulent t'empêcher d'aller quelque part. Quatrième chose pour laquelle les Ruben sont dangereux, et il ne faut pas les rencontrer. Lorsqu'ils réussissent, vous n'avez en l'instant aucune idée de ce qu'ils vous font rater. Aucune idée. S'il avait fait retourner vers son père, Joseph n'aurait eu aucune idée de tout ce qu'il avait raté. Et il aurait fait dévier tous les plans de Dieu. La famine serait arrivée plus tard. Un peuple ne serait pas conservé. Parce que un homme bien intentionné, mais sans révélation, s'est levé. Cinquième chose pour laquelle les Ruben sont dangereux, il ne faut pas les rencontrer. Ils vous empêchent d'accéder à un niveau supérieur, profitable à vous et même à d'autres. Mais ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, c'est qu'il a plusieurs attributs, dont la toute-puissance. À cause de cela, lorsqu'il tient à un projet, il exécute en écartant les obstacles. Job 42, verset 3, lui-même dit, « Qui est celui qui a la folie ?» D'autres versions disent, « L'audace d'obscurcir mes desseins. » Quand Dieu a des desseins, il tient à cela. Il vient écarter et dit, « Qui a la folie d'être un obstacle dans ce que je veux faire ?» Et j'aime Genèse 37, verset 25 à 29. On n'a jamais su ce qui s'est passé. Toujours est-il que le verset 29 parle d'une chose, Joseph est vendu. Et c'est à ce moment-là que Ruben revient. Plusieurs commentateurs disent que Ruben avait eu un besoin naturel. Il était devant le puits. Il disait, je ne veux pas bouger. Je veux contrôler parce que Joseph ne doit aller nulle part. Et Dieu envoie un ange qui en charge la digestion. Il y va secouer son ventre. Ruben entend seulement goudoudoudoudoudoudoudou. Il supporte, il dit, je ne peux pas partir. Je connais les mauvaises intentions de ces gens. Il entend encore goudoudoudoudoudoudou. Et puis il s'est dit, 5 minutes, c'est quoi? Je vais à peine m'absenter. 5 minutes, c'est suffisant pour Dieu. Je demande au Seigneur, écarte mes Ruben. Écarte les Ruben de mon frère. Qui veut l'empêcher? Il y a des gens qui aiment que nous ayons un parcours souffrance zéro. Mais des mauvaises personnes. Deuxième type de personnes à ne pas rencontrer, je termine ce matin, ce sont des pierres. Les pierres, personne n'est pas rencontré. Les pierres ont une caractéristique particulière, ce sont des émotifs. Je dirais même des émotifs primaires, sans vision, sans révélation, sans vision lointaine, ils ne voient que le bout de leur nez. Alors que Philippiens 2, verset 9 à 10, nous montre ce qui arriva à Christ après son humiliation. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alors que Isaïe chapitre 53, verset 10 à 11, nous montre ce que Christ recevra comme butin après l'humiliation par la croix. Il est dit, après avoir souffert, il rassasiera son regard. Mais Pierre veut lui éviter ce chemin. Ce chemin qui va l'amener vers la grandeur, par compassion, par amour, mais surtout à cause des 3 défauts majeurs. Premier défaut, les pierres ont une vision à court terme. Deuxième défaut, les pierres souffrent de myopie spirituelle. Troisième défaut des pierres, ils sont adeptes de la doctrine souffrance zéro. Il faut l'éviter à tout prix. La souffrance n'est pas bonne. Mais quelquefois, la souffrance est bonne. Les pierres, à l'instar des Ruben, ont 5 autres caractéristiques supplémentaires. La première, ils vous souhaitent la destination finale, mais vous évitent les processus. Les pierres veulent que vous arriviez au bout, mais ils ne veulent pas les chemins. Ils souhaitent certes qu'ils deviennent ces grands, mais pas la croix. Et Jésus est en train de dire, il faut que j'aille à Jérusalem, il faut que je sois délivré. Il dit que plaise à Dieu, cela ne peut pas arriver. Cela ne doit pas arriver. Non, 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 non. Pierre, cela doit arriver. Deuxième caractéristique de Pierre, ils veulent le but sans les chemins qui amènent au but. J'aimerais vous dire comme ceux du monde, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Troisième caractéristique de Pierre, ils sont sincères, mais se trompent aussi sincèrement. Quatrième caractéristique des pierres, ils sont plus des émotifs que des spirituels. Ils sont bavards, trop bavards. Il arrive que ce que les pierres pensent, plusieurs les pensent mais n'osent pas les dire. Mais les pierres disent toujours. J'aimerais dire aux pierres, apprenez à vous taire. Cinquième caractéristique des pierres, ils ne sont pas connectés à Dieu et à son plan. Et j'aime ce que Christ lui donne. Matthieu 16, verset 23, la partie B. Tes pensées ne sont pas celles du Dieu, mais celles des hommes. Tu as des pensées, tu as des conseils. Seigneur, aide-moi avec mes collaborateurs à avoir tes pensées. Non pas celles des hommes. Tu ne dois pas passer par ces chemins. Tu dois éviter ces chemins. Tu ne peux y arriver. 4 dernières choses concernant les pierres qui veulent nous éviter la croix. La première, il faut les laisser s'exprimer. C'est leur droit. Mais faites autre chose que ce qu'ils vous disent. Laissez-les s'exprimer. Quelquefois, quand les pierres parlent, que votre position soit celle qu'elle était avant qu'ils ne parlent. Mais laissez-les s'exprimer. Deuxième chose concernant les pierres, quand vous les rencontrez, il faut savoir les remettre à leur place. Et Jésus a pris ce risque. Son compagnon, son complice, il les regarde et dit, arrière de moi, Satan. Je le dirai à quelqu'un en Philadelphie, je vois sa démission lundi. Il n'enverra pas quelqu'un avec sa carte de membre. Lui-même va venir. Pasteur partout, sauf à Philadelphie. Arrière de quoi? Et ça, c'est comment il faut gérer les pierres. Savoir leur dire qui les motive. Troisième réaction à avoir avec les pierres. Il faut leur parler sévèrement. Sévèrement. Tu mets en scandale. Et quatrième et dernière chose. Il faut leur éviter... Et vous évitez la souffrance. faut leur éviter de vous éviter la souffrance. J'ai médité cette parole qui m'a étonné. Ésaïe parlant de ce que Jésus devait connaître, il dit, il a plu à l'Éternel. Il est brisé par la souffrance. Il y a des choses qui plaisent à Dieu, mais qui ne nous plaisent pas. J'aimerais nous inviter ce matin à baisser nos têtes. Mais alors que nous baissons nos têtes, je ne sais par quoi tu passes, je ne sais quelle situation tu connais. J'ai envie de te dire trois choses. La première, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. La deuxième, sache que tu as une alliance avec Dieu. Tu as un Dieu qui t'accompagne. Quelquefois, il ne nous évite pas la vallée de l'ombre de la mort, mais nous accompagne dans celle-ci. Quelquefois, il ne nous évite pas les feux, mais nous allons avec lui dans le feu. Quelquefois, il nous laisse tomber dans la fosse au lion. Et la troisième et dernière chose qui va nous accompagner au travers de ces contes, sache que tu as un Dieu grand.
Je suis touché. Ce matin, j'aimerais être touché.